9h42 à Paris. On passe au journal des sports avec vous, Antoine Grenier. Et du foot à la une, comme c'est bizarre. Le mondial des clubs se poursuit aux États-Unis. Le Paris Saint-Germain démarre idéalement.
Oui, on ne change pas les bonnes habitudes. Le Paris Saint-Germain, vainqueur 4-0 de l'Atlético de Madrid. Pas du tout, j'adore le football. Et le PSG en tête de sa poule B devant les Brésiliens de Botafogo qui ont dominé les Seattle Sounders 2-1 cette nuit. Suite de cette première journée ce lundi avec les rencontres du groupe D que vous suivrez, Andréane, j'en suis persuadé. Chelsea sera opposé au Los Angeles FC, l'équipe des anciens internationaux français, Olivier Giroud, Hugo Lloris, mais aussi de l'actuel panthère gabonaise Denis Bouanga, le véritable héros de son équipe, puisque c'est lui qui l'a qualifié pour ce mondial lors du match de barrage contre les Mexicains de Club América. L'ancien joueur de Lorient et de Saint-Etienne est impatient de disputer ce nouveau tournoi.
Ça va être magnifique, je pense, pour les États-Unis. Ce tournoi avant la Coupe du Monde va être beaucoup regardé et va être cool aussi au niveau des joueurs. C'est une compétition qui est pour moi très belle. Et Los Angeles a la chance d'y participer. On a tout fait pour. L'objectif, c'est de se confronter à de grandes équipes, de savoir où on en est, tout simplement, de comparer ces équipes aux équipes de MLS. Personnellement, moi, j'espère qu'on va gagner des matchs, que LFC part dans l'objectif de gagner et de ressortir de cette compétition très grand.
Chelsea, Los Angeles, coup d'envoi à 19h, temps universel. L'Espérance de Tunis affrontera de son côté la nuit prochaine le CF Flamengo, actuel leader du championnat brésilien. Ça se jouera à Philadelphie.
Allez, on passe au cyclisme. Le Tour du Cameroun s'est achevé sur le tout premier succès final d'un Algérien.
Islam Mansouri s'est imposé devant le Burkinabé Moukala Rwende au terme d'une 10e et dernière étape remportée par l'Allemand Lucas Carstensen. Bilan de cette 21e édition avec Joël Wedem.
Après s'être adjugé le maillot jaune à une étape de la fin de la compétition, l'Algérien Islam Mansouri était très attendu lors de cette 10e étape. En arrivant dans le peloton, il permet à son pays de remporter son premier tour du Cameroun.
C'est la première victoire Tour du Cameroun pour l'Algérie. On est très content pour cette performance. Ah, c'est génial.
Le Burkinabé Moukala Rwende est deuxième au classement général à la grande satisfaction de Jérémy Ouedraogo, le directeur sportif des étalons.
Le bilan est positif. En venant, on ne pensait pas qu'on allait avoir les maillots des meilleurs jeunes, à vu les relèves qui étaient sur le parcours. La deuxième satisfaction, c'est le podium. On est deuxième au classement général. Le résultat est très positif.
Le Camerounais Boris Michel Tchentche a détenu le maillot jaune de la première à la 8e étape. Ayant échoué si près du but, il n'a que des regrets.
Beaucoup de regrets, vraiment. À la 9e étape, j'ai été pris dans une chute. Donc voilà où a été mon retard. J'ai perdu le maillot jaune à 52 secondes. Croyant qu'aujourd'hui on pouvait récupérer, bon, ça n'a pas été facile. On attend l'exigence à venir.
Cette échéance au niveau du Cameroun sera le Grand Prix Chantal Biya, prévu en octobre prochain. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
De l'athlétisme pour finir et un nouveau podium pour Marie-Josée Talou en Ligue de Diamant.
L'Ivoirienne, 3e du 100 mètres du meeting de Stockholm en Suède. 11 secondes pour elle, devancée par la Britannique Dina Asher-Smith, 2e en 10,93. Et Julian Alfred, la championne olympique de la distance, qui signe sa meilleure performance de l'année 10,75. Un meeting surtout marqué par le nouveau record du monde du perchiste Armand Duplantis avec une barre passée à 6,28.
Toujours plus haut. Merci Antoine Grenier, c'est tout pour aujourd'hui. 9h45 à Paris. Lors de la revue de presse internationale, bonjour Frédéric Couteau.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une, le Moyen-Orient plonge dans l'inconnu.
Pour le Figaro à Paris, c'était tout à fait prévisible. Depuis les massacres du 7 octobre, il était évident que le gouvernement de Benjamin Netanyahou allait pousser la guerre jusqu'à Téhéran. Après les coups portés au Hamas et au Hezbollah, restait à s'attaquer à la génitrice, celle qui mène la guerre par procuration contre Israël via ses affiliés dans la région, celle qui les forme, les arme et les soutient, à savoir la République islamique d'Iran. Pour autant, pour suit le Figaro, en s'attaquant de front à son plus redoutable ennemi, l'État hébreu plonge la région et le monde dans l'inconnu. Et en effet, en attaquant l'Iran, Israël entraîne le Moyen-Orient dans un engrenage guerrier. C'est ce que souligne Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, dans une tribune publiée par Le Monde. Agnès Levallois, qui était tout à l'heure notre invitée.
L'Orient le jour à Beyrouth renchérit en dénonçant ce qu'il appelle une course vers l'abîme.
Israël n'a pas les moyens de détruire seul le programme nucléaire iranien et veut entraîner Washington dans un conflit qui enflamme rassemblerait toute la région. Quel est son objectif final ? S'interroge le quotidien libanais. Bombarder le régime iranien jusqu'à ce qu'il capitule, même en admettant qu'Israël parvienne à ses fins et que le régime finisse par tomber. Quelle sera la suite ? Qui va organiser la transition dans un pays ruiné de 90 millions d'habitants et qui fait 75 fois la taille d'Israël et 3 fois celle de l'Irak ? Comment imaginer que cela puisse aboutir à autre chose qu'à un chaos généralisé qui outrepassera largement les frontières de l'Iran ?
Au-delà de la question nucléaire, faire tomber le régime iranien, c'est l'objectif de Benjamin Netanyahou.
Et le Jerusalem Post s'en félicite. Il est maintenant temps pour le peuple iranien de se soulever, s'exclame le quotidien israélien proche du pouvoir. Levez-vous, saisissez ce moment. Nous ne sommes pas en guerre contre vous, peuple iranien, mais contre une clique qui assassine chaque jour des Syriens, des Yéménites, des Israéliens et des Iraniens. Non, rétorque de son côté à Haaretz, Israël doit éviter de se laisser entraîner dans une guerre d'usure. Les succès opérationnels ne sont pas un but en soi, estime le quotidien israélien d'opposition. Ils doivent se traduire par une démarche diplomatique qui permettrait de trouver une solution à la menace nucléaire iranienne, tout en évitant de sombrer dans une guerre totale, destructrice et prolongée. En tout cas, remarque le Devoir à Québec, cette guerre ouverte Iran-Israël renvoie soudain dans l'ombre, comme un élément secondaire, l'inhumain massacre de Gaza. Sur l'échiquier déréglé de la géopolitique mondiale, le sort des sites nucléaires iraniens et la lutte contre le fanatisme des ayatollahs pèsent plus que l'indicible tragédie palestinienne qui se poursuit pourtant.
Enfin, le Guardian à Londres s'en prend à la fois à Trump, à Khamenei et à Netanyahou.
Trois vieillards en colère qui pourraient tous nous faire tuer, s'exclame le quotidien britannique. La charge contre le Premier ministre israélien est plutôt violente. Netanyahou, 75 ans, est inapte à diriger Israël, affirme le Guardian. Il n'a pas protégé les Israéliens des attentats terroristes de 2023, puis il a esquivé ses responsabilités. Il n'a pas tenu sa promesse de détruire le Hamas et de ramener les otages, et pourtant ses soldats ont tué plus de 55 000 Palestiniens à Gaza. Il a envahi le Liban et la Syrie, maintenant c'est l'Iran. Où s'arrêtera-t-il ? S'exclame encore le Guardian. Va-t-il ensuite s'en prendre à la Turquie ? Ce n'est pas exclu.
Frédéric Couteau pour la Revue de Presse Internationale. Et vous l'entendiez, hein, c'est le Devoir à Québec qui l'écrit. L'indicible tragédie palestinienne se poursuit. Israël continue ses frappes quotidiennes sur la bande de Gaza. Et en parallèle, on a une société civile qui se mobilise de plus en plus à travers le monde. À l'image de cette marche pour Gaza, caravane partie de Tunis, mais qui est actuellement bloquée en Libye suite à la décision des autorités libyennes de l'Est. Beaucoup, toutefois, dans cette caravane, ne veulent pas faire marche arrière. Initiative qui a montré, quoi qu'il en coûte, la volonté d'une société civile maghrébine bien décidée à prendre le relais de ses dirigeants et à faire bouger les choses pour les Gazaouis. Lilia Blaise, notre correspondante à Tunis, nous en parle.
Samedi 14 juin, alors que la caravane Soumoud était encore bloquée à Sirte dans l'est libyen, des centaines de Tunisiens se sont réunis au centre-ville de Tunis pour soutenir l'initiative. Heikel Marfouzi, un journaliste indépendant, a participé à cette caravane jusqu'à Ras El Jdir, le poste frontalier tuniso-libyen.
C'était vraiment incroyable le soutien que nous avons eu, la solidarité tout au long des villes tunisiennes que nous avons parcourues. On sent que le mouvement de la marche pour Gaza a beaucoup fédéré.
Pour Raouf Farah, chercheur algérien basé en Tunisie, c'est tout le Maghreb qui se sent concerné. Près de 700 Algériens se sont joints à la caravane.
Je pense qu'en tant que Maghrébin, nous sentons cette responsabilité à la fois morale et politique de dire assez au génocide, assez aux violences génocidaires contre les Palestiniens, au silence et à la complicité des autorités, des gouvernements, des institutions internationales face à un crime.
Sur la page Facebook qui cumule plus de 200 000 abonnés, les participants au convoi n'ont pu poster que de rares informations, faute de réseau notamment. Ils affirment être en négociation avec les autorités libyennes, selon Heikel Marfouzi.
On en a eu vent de plusieurs personnes du convoi qui ont été arrêtées. On est encore en train de mettre à jour les informations que nous avons eues au fur et à mesure. C'est très difficile de joindre la caravane actuellement et on ne sait pas trop ce qu'ils vont pouvoir faire.
Dimanche 15 juin, les porte-paroles du convoi insistaient encore dans une vidéo pour rester en Libye et ne pas faire marche arrière, même si la caravane a dû rebrousser chemin vers Misrata, faute de résolution avec les autorités à Sirte. Mohamed Emine Benour, médecin, s'exprime dans un haut-parleur.
Il faut rester patient et soudé. Nous tous, Tunisiens, Algériens, Mauritaniens, nous allons y arriver ensemble.
Malgré le blocage, la détermination reste entière. L'espoir d'arriver jusqu'à Rafah s'amenuise. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Tunis où il est 8h52 et on continue en musique.
Mawanda kuimba kuimbira dziwalatu. Mawanda kuimba kuimbira dziwalatu. Dziwalatu la Angola, la Malawi, la Tendele. Dziwalatu la Angola, la Malawi, la Tendele, la Wino.
Et on prend la direction du Malawi ce matin pour notre choix musical juste avant 10h avec deux musiciens considérés comme les prophètes de leur pays, Yosefe Kalekeni et Yobu Maligwa, sillonnent le monde sous le nom de Madalitso Band. Vous êtes en studio pour nous en parler ce matin. Bonjour Carmen Lunsman.
Bonjour Andréane.
Alors ils viennent de sortir leur troisième album, Magitala, 8 titres où se mêlent voix et guitare dans un style assez unique en son genre.
Il faut savoir que ce duo Malawi utilise des instruments faits maison avec des moyens du bord. Une guitare à 4 cordes, le banjo malawite, un tambour de pied en peau de vache. Et Andréane, peut-être avez-vous déjà entendu parler du babaton?
Non, vous allez nous en parler.
Ouais, c'est une sorte de contrebasse à 1 corde et musicalement, ça donne ça.
Une découverte hein, ce matin sur RFI avec vous Carmen. Alors on perçoit effectivement à l'écoute un côté un petit peu roots comme on dit derrière ces rythmes entêtants. Quel est le parcours de ce duo dont vous nous parlez ce matin?
C'est aussi roots hein. Ces troubadours des cordes viennent de loin, formés dans les rues et même dans les arbres où Yosefe grattait sa guitare toute la journée perché sur une branche durant son enfance. Ces autodidactes ont fait leur début sur les marchés et lors de mariages dans des bidonvilles. Pieds nus, toujours le même vêtement sur le dos, parfois insultés ou même traités de fous. Ils se faisaient alors appeler Tiyeze, essayant en langue bantoue, jusqu'à ce qu'ils changent de nom pour Madalitso, ce qui signifie bénédiction en Chichewa, l'une des 2 langues officielles du Malawi, et ça leur donne littéralement des ailes.
Modala, c'est ce titre qu'on entend ici, plutôt solaire. Carmen, quels sont les thèmes abordés par le groupe dans leur langue?
Ils chantent l'amour et la fierté pour leur pays, les difficultés de la vie, qu'on soit riche ou pauvre d'ailleurs. Ils soulignent l'importance de travailler dur, de garder la foi pour être récompensé. Des choses simples, Andréane, présentées parfois avec humour, comme dans ce titre entraînant qui ouvre l'album où une femme est comparée à des pattes de poulet parce qu'elle rejette l'amour d'un homme pauvre au profit d'un homme riche. Sans suite glorieuse, évidemment. Donc c'est un sacré mélange de sagesse populaire et de groove contagieux que nous sert ce duo. Deviennent presque une affaire de famille, comme la chanson-titre « Magitala » où se joignent les voix des enfants de Yobu et Yosefe en chœur.
«
Donc pas besoin de comprendre les paroles pour saisir le message. Comme le dit Yobu, une chanson peut changer une vie. C'est sans aucun doute le cas de Madalitso Band, qui foule aujourd'hui les plus grandes scènes du monde, avec ce style bien à eux, dépouillé, tellement optimiste entre danse et trance. Magitala de Madalitso Band, c'était notre choix musical ce matin. Je précise que le duo Malawite vient d'entamer une vaste tournée à travers l'Europe avec une soixantaine de dates jusqu'à fin août. Merci Carmen Lutzmann.
Merci Andréane.
C'est la fin d'RFI matin. Je vous laisse tout de suite avec Juan Gomez. Bonjour Juan.
Bonjour Andréane Mélard.
Quel est le programme d'appel sur l'actualité aujourd'hui?
Émission exclusivement consacrée au Moyen-Orient. Nous prendrons le ton ce matin pour répondre à toutes vos questions sur l'escalade militaire entre Israël et l'Iran. Jusqu'où peut-elle aller? Quelles conséquences si le conflit s'intensifie? Israël-Iran, un nouveau front qui ne doit pas faire oublier la situation humanitaire à Gaza, ciblée quotidiennement par les frappes israéliennes. Là aussi, nous prendrons le temps de répondre à vos questions sur le quotidien des Gazaouis. 33 9 693 693 70. Reste avec nous dans moins de deux minutes, le journal.
Priorité santé. Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
hypertension artérielle, vos questions à un spécialiste.
Demain,
conseils aux voyageurs pour un séjour en pleine forme et un retour en bonne santé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
La France Music Week, c'est du 16 au 21 juin. Une semaine internationale pour la musique partout en France. Avec au programme des co-créations, des sessions d'écoute, une journée dédiée à l'innovation et aux nouvelles technologies, des rencontres professionnelles et un grand concert de la fête de la musique. France Music Week, du 16 au 21 juin. Plus d'informations sur france-music-week.com. Un événement du ministère de la Culture et du Centre National de la Musique. En partenariat avec France Média Monde.
L'information continue sur la chaîne WhatsApp de RFI.
Chaque jour, vous pouvez retrouver directement sur votre téléphone les principaux titres de l'actualité internationale et les analyses de RFI, ainsi qu'une sélection de nos émissions. Pour nous suivre, c'est simple. Allez sur l'onglet « Actu » de votre application, abonnez-vous à notre chaîne et rejoignez la communauté WhatsApp de RFI.
RFI sur WhatsApp. L'actualité autrement, l'information quand vous voulez.